Nous sommes en train d'étudier sur le fruit d'esprit, en Galates 5, 22. On a commencé cette semaine. Mardi, le frère Timothée Bixby il a parlé de un des vertus de ce fruit qui est l'amour. Et jeudi soir, le frère Albert Zondry il a parlé de la joie, qui est notre vertu de ce fruit. Et donc, Galates 5, 22, nous lisons ainsi, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, c'est-à-dire la foi, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. » La loi n'est pas contre ces choses, verset 23. Donc, cette semaine, nous avons commencé à étudier les différents aspects du fruit de l'esprit. Je pense que vous avez déjà noté le fait que le fruit est mentionné en singulier et pas au pluriel. C'est marqué le fruit, hein. C'est marqué mentionné en singulier et pas au pluriel. Donc il y a un seul fruit avec ses 9, on peut appeler caractéristiques différentes ou des vertus différentes. Les 9 aspects de fruit de l'esprit peuvent être divisés en 3 groupes ou 3 parties. Le premier étant l'amour, joie et la paix. L'amour, la joie et la paix font partie de ce premier groupe. C'est l'Esprit de Dieu qui produit un fruit qui consiste en 9 caractéristiques ou attitudes. On peut l'appeler comme attitude, inextricablement liées entre elles et que les croyants ont l'ordre de pratiquer dans tout le Nouveau Testament. Quand nous voyons dans le Nouveau Testament, nous lisons constamment qu'il faut pratiquer ces vertus qui sont des signes d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Et aussi, ils sont inextricablement liés, on ne peut pas les défaire, ils sont ensemble, on peut dire que c'est un pacte. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, c'est un pacte que nous recevons. C'est toutes ces vertus, c'est tous ces caractères qui se trouvent dans la personne de Jésus-Christ lui-même. Certains d'entre nous pouvons avoir une conception incorrecte de l'image de Jésus-Christ. Souvent, nous pensons, nous imaginons Jésus-Christ, nous mesurons Dieu par rapport à nous. Beaucoup conçoivent ressembler à Jésus-Christ est comme un reflet de leur propre personnalité. On pense que Dieu, il est comme nous. Un introverti pensera probablement que notre Seigneur est timide et au retrait. C'est vrai, on trouve que le Seigneur, il n'est pas parlé parfois quand les gens se sont posés des questions. Et parfois, il était en retrait, il ne voulait pas, il fuit la foule parfois. Et tandis qu'un extraverti le verra comme un leader agressif. Lorsque les 9 caractéristiques qui composent le fruit de l'esprit seront entièrement définies, nous aurons une image bien équilibrée de la vraie chrétienté. Et il faut voir ensemble pour comprendre le caractère de Dieu. C'est vrai, nous avons cette tendance de faire un compartiment. Hein? On divise Dieu en plusieurs parties, ou quelques-uns veulent prendre Dieu comme seulement un Dieu d'amour. Et certains d'autres, ils veulent prendre Dieu comme seulement un Dieu de justice. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour et de la grâce et de la justice à la même temps. Ce processus de ressembler à l'image de Jésus-Christ, un chrétien est souvent dépeint dans la Bible comme un arbre fruitier. Si je vous demande, mais certainement vous allez me réciter le psaume 1, le premier psaume, où c'est marqué, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et c'est un arbre. Un chrétien, il est dépeint comme un arbre qui donne son fruit en sa saison. Et aussi, dans le Nouveau Testament, nous trouvons que en Jean 5, verset 5, le Seigneur Jésus lui-même, il dit, « Je suis le cep, et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voyez, encore une fois, le Seigneur, il parle d'un arbre ou un cep, une vigne qui porte son fruit. Donc, ici, nous voyons qu'en nous-mêmes, on n'a rien. Si le Seigneur, il œuvre pas dans nos cœurs, c'est lui qui porte le fruit en nous, c'est lui qui produit le fruit en nous. Et encore dans l'Ancien Testament, on a un autre verset qui parle en Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Ça ressemble beaucoup à Psaume 1. Un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, il aperçoit point de chaleur quand elles viennent et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Ça, c'est les caractéristiques d'un chrétien qui craint pas la sécheresse, mais il est planté près de courants d'eau. Il prend ses racines et il porte son fruit. Donc, nous voyons que, encore dans plusieurs endroits, un chrétien, un enfant de Dieu, il est dépeint comme un arbre qui porte son fruit. Un arbre, il est connu par son fruit, hein, dit le Seigneur. On peut connaître un arbre que par son fruit. Un manguier peut être connaître par son fruit. Un cocotier peut être connaître par son fruit. Et aussi le bon fruit ou le mauvais fruit qui peut porter. C'est 9 vertus précieuses qui forment le fruit de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu sont placées en contraste avec les œuvres de la chair qui sont cultivées dans les ténèbres. Et un peu plus loin, dans le même chapitre de Galates 5, nous voyons que, un peu avant, verset 19, « Or les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et l'excès de la table et les choses semblables. » Donc, il y a une longue liste, plus que 9, je pense qu'il y en a 15, et encore beaucoup de choses qui n'est pas mentionnées. Et donc, ce sont des œuvres de la chair, c'est les œuvres de la ténèbre. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième aspect aux caractéristiques du fruit de l'esprit qui est la paix. Et maintenant, nous allons poser la question, qu'est-ce que la paix? Est-ce que c'est l'absence de conflit, de guerre, de violence? Qu'est-ce que la paix? Et un ancien proverbe dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est assez contradictoire, mais il dit que si tu veux la paix, prépare la guerre. Saint Augustin, il est saint comme nous tous, pour repérer qui est Augustin, je vous dis, Saint Augustin, disait que le but de toutes les guerres, c'est la paix. C'est l'histoire de notre monde. Il peut nous réciter, il peut nous raconter cela, qu'il peut affirmer, confirmer cela. Le but de toutes les guerres, c'est la paix. C'est étonnant, n'est-ce pas? On se demande si la paix signifie ici la paix intérieure basée sur une conscience d'une juste relation avec Dieu ou une condition de paix envers les hommes. Est-ce la tranquillité d'esprit? Cela semble être la meilleure façon de l'interpréter. Et écoutez, ce que C.S. Lewis avait dit, il a dit ainsi, « Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et la paix en dehors de lui-même, car une telle chose n'existe pas. Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et la paix en dehors de lui-même, car une telle chose n'existe pas. Il n'y a rien de tel. Si dans ce monde, les gens ils cherchent la paix, ils cherchent la paix, mais si nous sommes en train de chercher la paix en dehors de Dieu, une telle chose n'existe pas. Paix est eirene en grec, un état de concordance, harmonie dans les relations personnelles. Le salut juif, la salutation juive commun était shalom, qui a un sens riche et complet. L'idée fondamentale de shalom est l'achèvement et l'accomplissement. On dit tout court, la paix, shalom c'est la paix. Et l'idée fondamentale de shalom est l'achèvement et l'accomplissement. Entrer dans un état de plénitude et d'unité, une relation restaurée. Ça, on peut appliquer uniquement à Dieu, une relation complète et restaurée, réconciliée. On peut appliquer seulement à Dieu. Mais ce que le mot shalom, paix, qui nous signifie, il signifie la paix, la prospérité aussi, le bien-être, la santé et la sécurité. Ce n'est pas seulement un fruit personnel de l'esprit. C'est-à-dire, tout ça, ce n'est pas, on ne peut pas prendre pour, personnellement pour nous-mêmes. C'est le fruit qui est donné afin de vivre notre vie en communion avec les autres enfants de Dieu d'une manière pacifique et harmonieuse. Cette paix qui vient de l'Esprit Saint ne signifie pas l'absence de conflit. Regardons ce que Jésus dit de la paix qu'il donne à ses disciples. Nous connaissons bien ce passage en Jean 14. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et encore à Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, cette assurance que nous avons, que certainement nous aurons la tribulation dans ce monde, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, on est tous dans le même bateau. On est en train de vivre des moments incroyables avec cette maladie de COVID-19 et certainement la condition économique ne va pas bien. Mais le Seigneur dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La paix selon la parole de Dieu. Autant le monde souffre de la guerre et de la violence, autant nous entendons le mot paix sans cesse. Les gens qui n'ont connu que la violence et la guerre sont honorés. Il y a le prix Nobel pour la paix. Dans ce monde, nous avons même une vision incorrecte du sens du mot paix. L'homme ne peut jamais connaître la vraie paix en dehors de son Créateur, son Dieu. La paix et le calme intérieur naît de la confiance qu'on place dans la relation salvatrice que l'on a avec Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions loin de Dieu, loin de sa sainteté. Mais Dieu, par son grand amour, il nous a sauvés par son Fils bien-aimé Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est ainsi que nous avons la paix avec Dieu. La paix que nous avons avec Dieu était gagnée sur la croix, le symbole de la violence. Nous étions réconciliés par le fait que Jésus a payé le prix pour nos forfaits et pour nos péchés. Je vais lire ce passage de Éphésiens 2, versets 12 à 17. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, ça parle de notre passé, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Regardez bien le verset 14. Car il est notre paix. Car il est notre paix. Lui qui est des deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il y avait une inimitié qui nous séparait de Dieu. Et là, renverser ce mur de séparation. Et verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Donc, il est notre paix, il a établi la paix, et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Éphésiens 2, 12 à 17. Jésus est la paix. Il a reçu le nom de prince de la paix, même avant sa naissance. Dans son sermon sur la montagne, il a dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5, 9. Mais quelle sorte de paix a-t-il amené quand il est venu dans ce monde? Je vais lire de Matthieu 10, quelques versets. « Ne croyez pas, verset 34 à 38, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, ce n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. La paix implique la tranquillité, bien sûr, mais peut inclure des problèmes dans les relations humaines. Contrairement aux pensées humaines, la paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de problèmes ou de troubles. La paix n'est pas l'absence de guerre ou des ennuis. C'est beaucoup plus que cela. La venue de Jésus-Christ n'est pas une chose pacifique. C'est une chose troublante. Parce que cela signifie la destruction de toute paix qui n'est pas basée sur une relation personnelle avec lui-même. Chez les humains, la tendance est de procurer la paix n'importe comment. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. La parole de Dieu nous dit autrement. Amitié avec le monde et inimitié contre Dieu. Alors la vraie paix est être en paix avec Dieu. Si vous cherchez un juste milieu entre les deux, je vous dis que vous n'allez pas trouver, car il n'y a pas. Vous devriez choisir entre les deux. Il faut trancher. Qu'est-ce que nous cherchons? La paix avec le monde ou la paix avec Dieu? La paix de ce monde ne peut jamais être la paix de Dieu. Mais cependant, si vous êtes réconcilié avec Dieu et en paix avec Dieu, vous allez chercher à être en paix avec tout le monde. L'Esprit Saint apporte la paix intérieure qui peut exister au milieu d'un conflit extérieur. Cette paix découle d'une foi implicite, d'une confiance en Dieu qui s'occupera de tous les problèmes. Et cette foi elle-même est augmentée par l'Esprit Saint qui nous introduit à de plus en plus de profondeur de Dieu. L'Esprit Saint nous assure aussi la paix avec Dieu, c'est-à-dire une bonne relation avec Dieu, où Dieu n'est plus considéré comme un être à craindre parce qu'il nous punira, mais une personne qui nous aime et qui a donné son Fils à grands frais de nous racheter et de nous bénir. L'amour est le premier et le principal fruit de l'Esprit, Esprit Saint, mais la joie et la paix sont inséparables de l'amour, ainsi que des autres attributs que nous trouvons dans ce fruit de l'Esprit Saint. Et c'est Dieu Dieu nous donne sa paix. Dieu donne sa paix. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu donne sa paix? La paix que le monde nous propose est une paix superficielle, qui dure pour un temps et elle n'y est plus. Et nous voyons de nos jours combien d'accords de paix sont brisés. Regardons ensemble ce que Dieu nous dit. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et le verset 27 de Jean 14, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et pour conclure, j'ai lu un écrit de Oswald Chambers, que beaucoup d'entre nous connaissons. La paix des péchés pardonnés, la paix qui est procurée par le péché pardonné, la paix d'une conscience au repos avec Dieu, n'est pas la paix que Dieu nous donne. Ce sont les résultats immédiats de croire en Dieu et de lui obéir. Mais sa propre paix qu'il donne, il donne sa propre paix, mais il faut savoir que Dieu n'a jamais eu de péché à être pardonné ou une conscience à être apaisée. Et donc, si Dieu donne sa paix, avez-vous déjà reçu sa paix? Lorsque vous êtes en règle avec Dieu, recevez votre paix en étudiant dans la concentration consacrée de notre Seigneur lui-même. Regardez son visage, et quand nous regardons son visage, on se souvient combien il était inébranlable en toutes circonstances. Il n'était pas affecté par des situations ou des circonstances. Il avait cette paix en lui-même. Et en Philippiens 4, 7, nous voyons « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas comprendre cette paix, mais on peut avoir cette paix avec Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas n'est-il pas suffisant pour nous? Cette paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur, tu es le Dieu de paix, la paix que le monde il cherche en vain. Seigneur, c'est toi qui nous donnes ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence et toute compréhension humaine. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ce fruit de l'esprit qui est donné pour nous, Seigneur. tous ceux qui veulent te suivre, qui veulent ressembler à notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous te remercions pour Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a donné sa vie sur la croix à notre égard. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour cette réconciliation que tu as opérée en nous. Seigneur, merci parce que tu as brisé le mur d'inimitié qui était dressé entre Dieu et les pécheurs. Seigneur, tu es le même Dieu et tu attends que les pécheurs ils répondent. Seigneur, nous te prions que tu nous utilises. Seigneur, aide-nous à comprendre ces vertus de Jésus-Christ qui est donné pour nous aussi, pour vivre notre vie dans ce monde. Seigneur, transforme notre vie et que notre vie soit le reflet de l'image de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions tout cela dans ton Saint-Nom et pour ta seule gloire. Amen.